Bien, voilà, je vous remercie de m'avoir invité dans cette université ouverte en santé. J'ai envoyé un texte qui s'appelait effectivement « Consommer mieux, autrement, moins ». Je terminerai par en fait cette conclusion. Mais je voudrais arriver à cette conclusion par une réflexion sur le toujours plus, puisque en fait c'est bien là le thème dans lequel s'inscrit mon intervention. Toujours plus, c'est-à-dire en fait pour nous qui travaillons dans le domaine du développement durable, la question est toujours plus de croissance ou pas toujours plus de croissance. Donc nous sommes pour le moment dans une période dite de crise, où c'est la grande panique parce que la croissance est en panne. Et c'est d'autant plus paradoxal que, en même temps, un petit peu partout, et dans plusieurs pays au niveau même le plus élevé, les bénéfices de cette croissance sont mis en question et sont mis en doute. Et je l'en veux pour preuve que la commission Stiglitz-Sen, qui était mise sur pied par le président Sarkozy pour trouver d'autres indicateurs de bien-être que la croissance économique, un travail équivalent se fait au niveau de l'OCDE, se fait en Grande-Bretagne, se fait en Belgique, et notamment dans un projet que je coordonne, qui s'appelle Wellbeing in Belgium. Donc quel est le paradoxe? Le paradoxe, c'est qu'en fait, on se lamente de l'existence d'une crise. Et qu'est-ce qu'une crise? C'est un frein de la croissance. Et en même temps, on se rend compte de plus en plus, par un certain nombre d'indices et d'indicateurs, que cette croissance économique n'est plus synonyme d'accroissement ni de bien-être, ni de bonheur, ni de quoi que ce soit d'autre qui puisse correspondre à un objectif pour une société, une opérationnalisation du concept de développement. Et donc, dans le cadre de l'Institut pour un développement durable, on est chargé d'essayer de trouver, effectivement, de proposer d'autres indicateurs qui nous permettent de voir si notre société progresse. Et cela, on est obligé de le faire indépendamment de la croissance économique parce que la croissance économique, en tout cas dans les pays développés, je vous montrerai une diapositive qui en dira plus long là-dessus, a cessé, en tout cas au moins d'après tous les indices dont on dispose depuis les années 70-80, d'être synonyme. Oula, ça va trop vite là. Oui. Mais je ne vous avais pas encore fait signe. Donc depuis les années 70, on se rend compte que par différents indices, que la croissance économique, c'est-à-dire la croissance du revenu et de la production, a cessé d'être corrélative d'un accroissement d'un certain nombre d'indicateurs autres qui nous renseignent quand même sur l'état de bien-être de la population. Alors, par ailleurs, on sait aussi que cette croissance a un coût, notamment environnemental, de plus en plus important. Vous avez tous entendu parler, bien sûr, de réchauffement climatique et des émissions de gaz à effet de serre qui sont intimement liées à la croissance économique. Mais aussi, on se rend compte de plus en plus, et ceci pourrait expliquer cela, que la croissance économique s'accompagne de coûts humains et sociaux croissants également, si bien qu'on en est à poser l'hypothèse maintenant, et c'est peut-être plus qu'une hypothèse, mais enfin, ça reste encore à démontrer de façon analytiquement approfondie, que, en fait, les bénéfices de la croissance sont annihilés par les coûts de la croissance. Coûts environnementaux, je l'ai dit, mais aussi les coûts humains, les coûts sociaux, et le stress qu'elle génère, etc. Alors, sur quelle base peut-on affirmer cela? Sur base, en fait, comme j'ai dit, d'autres indicateurs. Et pour le montrer, je vais partir d'un indicateur synthétique qui est proposé récemment par la New Economic Foundation, qui est un bureau d'études privé en Grande-Bretagne, qui a calculé un indice qui nous intéresse parce qu'il y a un indice qui est lié à la santé là-dedans, c'est l'espérance de vie, et donc qui est en fait un indicateur objectif de bien-être. On peut dire que le but, en fait, enfin un des buts dans l'existence, c'est d'avoir une belle vie longue, la plus longue possible si possible, et bien entendu une vie longue en bonne santé, pas une vie longue en mauvaise santé. Donc d'un côté, comme indicateur objectif de bien-être, qui est une chose que normalement tout le monde recherche, c'est de vivre le plus longtemps possible. Et d'un autre côté, c'est aussi de ressentir un sentiment de satisfaction dans la vie, de ressentir un sentiment de bien-être et de bonheur. Et donc ça, c'est un indicateur subjectif, le bien-être subjectif, tel que les individus le rapportent lorsqu'on les interroge, ce qui se fait tout à fait régulièrement chaque année, dans un grand nombre de pays de la planète, de façon standardisée. On demande aux gens, sur une échelle de 0 à 10, comment vous situez-vous en termes de satisfaction. Donc, par rapport à la proposition, dans l'ensemble, dans mon existence, je suis actuellement très satisfait, moyennement satisfait, pas satisfait du tout, etc., sur une échelle de 0 à 10. Et donc, les gens répondent. Hein, et alors, l'indice synthétique proposé, eh ben, c'est au fond, c'est l'espérance de vie heureuse, c'est-à-dire un nombre d'années qui correspond donc à l'espérance de vie, multiplié par la moyenne dans le pays des réponses à la question « Est-ce que je suis heureux ?» Et vous voyez par exemple que la Belgique, on a une espérance de vie de 78,8 ans, et la moyenne des réponses de l'échelle, sur l'échelle de 0 à 10 sur « Êtes-vous satisfait dans la vie ? Êtes-vous satisfait de votre existence en général ?» c'est 7,6, ce qui donne un indice de 598,9. Un autre exemple, c'est le Costa Rica, qui est le champion du monde, en fait, l'espérance de vie heureuse, avec une espérance de vie quasi, très proche de la nôtre, 78,5, et un niveau de satisfaction exprimé par la population très élevé. Par contre, bon, vous avez lu les États-Unis aussi, avec un indice un peu plus élevé que la Belgique, et puis un des plus bas, indices les plus bas, c'est le Burundi, avec une très faible espérance de vie, 48,5, et un indice de satisfaction déclarée extrêmement faible, 2,9, ce qui donne un indice global de 140,65. Et alors, ce qui est intéressant, ben, c'est en fait de mettre ça en rapport avec un indicateur d'efficacité environnementale, de pression environnementale, pour voir dans quelle mesure le mode de développement de ces différents pays, et du nôtre en particulier, est efficace en termes d'utilisation de ressources rares, notamment principalement les ressources environnementales. Est-ce qu'on fait un bon usage de ces ressources qu'on consomme pour produire du bien-être ? Donc l'indicateur qu'on va prendre comme indicateur de pression environnementale, donc prélèvement de ressources rares, c'est un indicateur dont vous avez sûrement entendu parler, c'est l'empreinte écologique, donc en anglais « ecological footprint », c'est pour ça que j'ai gardé. Et alors, si vous mettez en relation le HLI, HLY, c'est « Happy Life Years », donc les années heureuses, bien, vous voyez que, par exemple, la Belgique, avec son indice 598,9 de a une empreinte écologique de 5,1. Et par contre, le Costa Rica, avec son indice de 667,25, a une empreinte écologique de 2,3. Donc, en fait, à quoi correspondent ces 5,1, ces 2,3, etc. à des hectares théoriques utilisés par chaque individu pour... Donc, ces hectares de production de la biosphère pour la production de la consommation, donc tout ce qu'ils consomment en termes d'énergie, en termes de bois pour se chauffer pour la maison, en termes de viande, d'aliments, etc. Tout ça, on traduit dans un indicateur, on ramène ça à la surface de la Terre, à la surface utile de la Terre, et on dit, ben ça correspond par personne, comme si on s'appropriait chacun, ici en Belgique, 5,1 hectares de la planète pour produire un an de consommation belge. Alors nous, on utilise 5,1 hectares pour produire un bien-être, des années heureuses de 598,9. Le Costa Rica, lui, n'utilise que la moitié à peu près, moins que la moitié, pour produire un bien-être encore supérieur. Les USA, eux, ont effectivement un indice de bien-être légèrement supérieur au nôtre, mais avec une consommation environnementale une des plus élevées au monde, donc très très peu efficace. Alors le Burundi, bien entendu, lui a... Et très très faible pression environnementale, mais aussi un très faible indice de satisfaction d'efficacité. Donc l'objectif, du point de vue du développement durable, c'est d'obtenir le maximum possible de HLI avec le minimum possible d'empreinte écologique, de façon à ce que les autres générations qui nous suivent puissent elles aussi atteindre un HLI satisfaisant, avec ce qui restera des ressources qu'on leur a laissées. Donc on a intérêt à leur laisser le plus possible de ressources. Et on voit qu'il y a moyen, il y a de la marge. Hein. Bon, évidemment, je n'ai pas remis tous les pays, il y en a 150 dans l'indice. On voit qu'il y a de la marge, il y a moyen de faire mieux que ce qu'on fait. Et donc, la croissance économique pose question. Alors, prenons donc le premier élément de notre indice, c'est l'espérance de vie. Bon, on voit qu'elle est évidemment très, très inégalement répartie sur la planète. Vous avez les pays occidentaux et l'Australie avec une espérance de vie très élevée. Vous avez les pays émergents, l'Amérique latine, avec une espérance de vie intermédiaire. Et puis toute l'Afrique subsaharienne avec une espérance de vie très faible. Et alors, ce qu'on montre, c'est qu'en fait, le lien avec le PIB par habitant n'est pas du tout évident. Donc, pourquoi ? Parce qu'au fond, si vous regardez bien, au fond, on a affaire à trois groupes de pays. Nous avons d'abord tout un groupe de pays qui se situe aux environs de 5 000 à 10 000 dollars par habitant par an en termes de revenus moyens. Hein, et que dans cette catégorie-là, vous avez une énorme différence d'espérance de vie. Vous avez des pays qui, avec ce faible revenu, bon, une très faible espérance de vie, puis vous en avez d'autres qui, avec le même faible revenu, arrivent à faire beaucoup mieux en termes d'espérance de vie. Vous avez le Costa Rica, qui est là, bon, à la limite, vous avez Cuba, bon, l'Inde, hein, qui est là aussi, et puis, par contre, vous avez en bas le Mozambique, le Swaziland, etc. Et donc ça, c'est le premier groupe de pays où faible revenu, mais grande différence d'espérance de vie. Puis vous avez un autre groupe de pays, c'est au-delà, en gros, de 20 000 dollars par habitant, où là, vous avez une grande variation dans le revenu par habitant, puisqu'il va de 20 000 à 50 000, mais sans impact sur l'espérance de vie, puisque tous ces pays-là, qui sont en gros les pays du monde occidental, de l'OCDE, ont là une espérance de vie à peu près équivalente, alors que le revenu varie considérablement. Et donc, finalement, le seul groupe de pays pour lequel on peut voir une certaine liaison entre croissance économique, donc revenu, et espérance de vie, ben, c'est le groupe intermédiaire, si vous voulez, là où la courbe s'infléchit et là où vous avez une relation, une corrélation positive entre les deux variables. Donc, ça signifie qu'en deçà d'un certain seuil, ben, ce n'est pas le revenu qui fait une différence, qu'au-delà d'un autre seuil, ce n'est pas non plus le revenu qui fait une différence. Le revenu fait une différence juste dans une marge de variation relativement étroite. Alors, ceci dit, ça cache quand même des inégalités qui restent importantes. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Comme je savais que j'allais m'adresser à travers de la santé, j'ai essayé de chercher des informations. Et donc, ça cache malgré tout des différences qui, on verra, ne sont pas des différences liées en réalité tellement au revenu, mais des différences liées essentiellement au statut social. Statut social marqué ici par le niveau d'éducation. Vous voyez que l'espérance de vie à 25 ans en Belgique varie entre 48,1 années pour les gens qui n'ont pas atteint le niveau primaire, 50 ans pour ceux qui ont atteint le primaire, 50,9 pour ceux qui ont fait des études secondaires et 53,4 pour ceux qui ont fait des études supérieures. Si on prend maintenant l'espérance de vie en bonne santé, qui est une calcul d'espérance de vie qui élimine les années de mauvaise santé, les différences sont encore plus flagrantes entre les statuts. Et donc, à l'intérieur d'un même pays riche, il reste des différences. Alors, ces différences, en fait, par quoi s'expliquent-elles ? Eh bien, on va passer à l'autre suivante, puis on va faire la synthèse. Bon, même chose sur le risque relatif de décéder chez les locataires comparé aux propriétaires. C'est une moyenne sur les 91-97, par âge. Vous voyez que le locataire par rapport au propriétaire entre 50 et 59 ans a 65% de chances de plus de décéder que le propriétaire, 44% de chance de plus entre 60 et 69 ans, 22% entre 60 et 69 ans, et 8% entre 80 et 89 ans. Alors, bon, c'est évidemment quelque chose de très interpellant. Ce n'est pas uniquement lié, bien sûr, le revenu joue là-dedans, mais ce qui joue, c'est surtout la sécurité. Mais alors, sur l'ensemble de ce qu'on appelle le gradient social de la santé, dans la santé, donc c'est quoi ce gradient social ? Ben, c'est le fait que, au fur et à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie sociale en termes de statut, en termes de niveau d'éducation, etc., l'espérance de vie en bonne santé augmente. Et bien entendu, on a souvent interprété ça en termes de revenus ou de comportement, disant bon, plus les gens sont élevés, mieux ils se comportent, etc. Mais en fait, on dispose maintenant de ce qu'on appelle les Whitechapel Studies, qui sont en fait des études menées en Grande-Bretagne depuis la fin de la guerre, de façon continue, sur tous les fonctionnaires, donc les gens de la fonction publique en Grande-Bretagne, qui sont suivis médicalement par leur service médical, et donc qu'on connaît bien, pour lesquels on a des données maintenant quasiment de 40 ans, et où on a pu alors avoir suffisamment de données pour que statistiquement on puisse maîtriser un certain nombre de facteurs, et on a pu mettre en évidence que toute chose égale par ailleurs, à comportement égal, plus on est haut dans les hiérarchies, plus on est en bonne santé. Et donc, on a pu mettre en évidence un facteur purement sociologique, en fait, qui est celui de simplement du fait d'être inférieur ou d'être supérieur. Et le fait d'être un inférieur, eh bien, se traduit, comme chez les singes, parce qu'on a beaucoup étudié ça chez les singes, chez les humains, par une santé moins bonne, une espérance de vie plus faible, etc. Alors l'autre, donc on a vu maintenant l'aspect objectif, hein, ce qui est mesurable objectivement, indépendamment de ce que les gens perçoivent, disent d'eux-mêmes. L'autre est le bien-être subjectif. Là, vous avez quand même une carte mondiale un petit peu différente, parce que vous avez, ce qui n'était pas le cas pour l'espérance de vie, vous avez les pays latino-américains, en gros, qui sont quasiment dans la même catégorie que les pays occidentaux de l'OCDE. Et puis vous avez des petites taches de moins bonne espérance de vie, essentielles, de moins bon bien-être subjectif, notamment dans des pays de l'ancien bloc soviétique, etc. Alors, on ne va pas s'attarder sur ça. On va revenir à même l'équivalent du graphique qu'on a vu tout à l'heure avec l'espérance de vie, le facteur objectif. Ici, on a le facteur subjectif, lui aussi mis en relation avec le revenu par habitant, le revenu moyen par habitant. Et même constatation, en fait. On retrouve trois groupes de pays qui ne sont pas d'ailleurs exactement les mêmes. Enfin, il y a quand même une grosse corrélation. Vous avez même chose entre 1 000 et 5 000 dollars. Vous avez des grandes différences de satisfaction, de bien-être subjectif déclaré. Avec, vous voyez dans le bas, quasiment tous les pays de l'ancien bloc soviétique, qui sont l'Ukraine, la Moldavie, la Biélorussie, la Russie, Bulgarie, etc. Bon, qui sont les pays qu'on dit en transition. Et par contre, à niveau de revenus équivalents, vous avez des pays comme le Ghana, les Philippines, le Bangladesh, l'Inde, etc., qui ont des niveaux de satisfaction déclarés beaucoup plus élevés que ces pays-là. Alors, même chose, à partir d'un certain niveau de revenus, vous avez tout un groupe de pays où il y a une grosse différence de PIB par habitant, et où, malgré tout, vous n'avez pas de différence en termes de bien-être déclaré. Donc, on pourrait dire qu'à partir du revenu de 10 à 12 000 dollars par habitant par an, toute augmentation de revenus est nulle et non avenue en termes de bien-être collectif. Une fois, et de nouveau, c'est dans une marge frange intermédiaire où on observe une certaine corrélation entre les deux variables. Et donc, toujours plus, ben, on peut en conclure que ça ne marche pas, en fait. Ça marche un peu à certains moments, mais ça ne marche pas toujours et ça ne marche pas partout. Et donc, il y a d'autres choses, d'autres facteurs qui sont plus déterminants que le revenu dans ce qui détermine le bien-être de la population. Même graphique, j'ai pour la Belgique. Là, par contre, là, on a mis en parallèle l'évolution du revenu disponible par tête de 1973 à 2001. C'est la courbe rouge. Hein, et vous voyez l'autre courbe, il faut prendre la courbe noire non pointillée, qui est la moyenne mobile du bien-être subjectif en Belgique. Vous voyez qu'il n'y a pas de corrélation. Ce sont deux choses qui évoluent différemment. C'est pas l'augmentation de, c'est pas la croissance économique qui peut l'expliquer. Les deux courbes n'ont pas de points communs dans leur allure. Elles s'éloignent même l'une de l'autre à partir de 1993, clairement. Parce que la satisfaction est légèrement à la baisse avec une certaine reprise, alors que le PIB continue de s'accroître. Alors, quels sont les facteurs en fait, qui influencent le bien-être subjectif quand on interroge les populations, on leur demande ce qui contribue le plus à leur bien-être? Eh bien, en fait, on voit que le facteur qui arrive en premier, c'est en fait les relations familiales et les relations de couple. Bon, ce n'est pas une surprise, il n'y a pas de surprise là-dedans. Le deuxième facteur, c'est la santé, ce n'est pas non plus une surprise, mais ce qu'on a vu, c'est que la santé est peu dépendante finalement du revenu. Le troisième facteur, ça c'est déjà plus étonnant, c'est en fait l'environnement, donc le lieu de résidence. Enfin, ce n'est pas tellement étonnant. Ceci dit, ce sont les données britanniques, ce ne sont pas les données belges. Et puis, bon, ce qui moi m'a étonné beaucoup plus, c'est que l'accomplissement dans le travail ne représente que 2% de la population, enfin 2% dans l'explication du score de bien-être général. Bon, par contre, la situation monétaire financière n'intervenant que pour 7%. Donc, alors, bien entendu, on pourrait discuter pas mal, parce que je pense qu'honnêtement, ce genre de données sous-estime malgré tout l'importance du facteur financier et du facteur monétaire, parce que les pertes financières sont, les pertes de pouvoir d'achat sont vécues de façon beaucoup plus forte que ne le laisse supposer ce genre de graphique. En réalité, quand on voit les choses en dynamique, bon, quand vous demandez en statique qu'est-ce qui vous rend heureux maintenant, les gens ne vous disent pas le revenu. Mais par contre, la peur de perdre son pouvoir d'achat est un facteur tout à fait présent, tout à fait réel, et qui n'est pas, dont ce genre de graphique ne rend pas compte. Néanmoins, il n'en reste pas moins que c'est loin d'être le facteur dominant dans l'explication. Alors, bon, ben comment peut-on expliquer cela ? Ben, on peut en revenir à certaines théories sur la hiérarchie des besoins, et celle de Maslow, vous la connaissez certainement, est une des plus célèbres, qui explique simplement que, bon, en fait, l'homme s'accomplit en accomplissant, en satisfaisant de façon hiérarchique un certain nombre de besoins, et il y a un niveau de saturation pour chacun d'entre eux. À partir du niveau de saturation, par exemple, des besoins physiologiques, eh bien, c'est les besoins de sécurité qui prennent le pas pour la satisfaction. Et une fois que le besoin de sécurité lui-même est satisfait, eh bien, on passe à un niveau supérieur d'accomplissement personnel. Et là, ce sont les facteurs d'appartenance sociale, etc., qui prennent le pas, et ainsi de suite. Et donc, dans la mesure où le toujours plus, c'est surtout sur les besoins physiologiques de sécurité, bien, il n'est pas étonnant qu'à partir du moment de saturation, de satisfaction physiologique et de sécurité, ben, il n'apporte plus rien. Et non seulement il n'apporte plus rien, mais ce qu'on constate de plus en plus, c'est qu'il constitue presque un obstacle à la satisfaction des besoins d'appartenance, pas tellement d'estime, mais d'appartenance certainement, et qu'il est relativement indépendant des besoins de réalisation. Alors vous avez une autre théorie des besoins qui est celle de Manfred Max Neef, qui est différente de celle de Maslow, en ce sens que lui, il nie qu'il y ait une hiérarchie des besoins. Il dit que tous les besoins sont sur un même pied. Ce sont des besoins d'ailleurs universels, ils existent chez tous les êtres humains. Ils doivent être satisfaits tous les neuf. Et en fait, ce qui varie d'une société à l'autre ou d'une époque à l'autre, ben c'est quoi on satisfait ces besoins. C'est ce qu'on appelle les satisfacteurs. Alors, à chaque type de besoin correspondent différents types de pauvreté. Donc il n'y aura pas une seule pauvreté. On a tendance, nous, à assimiler pauvreté à pauvreté matérielle. Bon, on sait bien que la pauvreté est un facteur multifactoriel, que c'est plus riche que ça. Mais avec la classification des besoins de Max Neef, on le voit clairement que, bon, ben, il y a une pauvreté. Quand la pauvreté matérielle, c'est quand les besoins de subsistance ne sont pas rencontrés, bien entendu. Mais il y a des pauvretés de manque de protection, donc d'exposition trop élevée au risque. Par exemple la précarité, mais la sécurité civile, etc., mais aussi les risques environnementaux. Il y a une pauvreté lorsque le besoin de compréhension du monde qui nous entoure n'est pas satisfait, qu'on ne comprend pas le monde dans lequel on est. Donc c'est une pauvreté, je dirais, cognitive. Il y a bien entendu la pauvreté affective, et chez nous, cette pauvreté affective est croissante, notamment chez les personnes âgées, sentiment d'isolement, d'exclusion, etc. Il y a une pauvreté participative, et le chômage, en grande partie, c'est la pauvreté participative, c'est-à-dire qu'on ne participe pas à la création du bien-être social, on en est exclu, on se sent inutile, bon, mais aussi quand on est exploité ou quand on n'a pas son mot à dire. Il y a une pauvreté en termes de loisirs et de repos, quand on est harassé, surchargé et qu'on est exposé à un stress trop important. Il y a une pauvreté quand notre créativité, notre besoin de création n'est pas satisfait, et qu'on est dans un emploi routinier hyper conformiste, où on s'ennuie, donc c'est une pauvreté. Il y a une pauvreté liée au manque de reconnaissance, l'identité, notre identité n'est pas reconnue. Et enfin, il y a une pauvreté en termes de manque d'autonomie, et ça c'est un facteur que les psychologues mettent terriblement en évidence, et que les enquêtes mettent énormément en évidence, c'est qu'un des facteurs les plus puissants d'explication du bien-être, c'est le couple autonomie-contrôle, c'est-à-dire capacité de se fixer ses buts soi-même et de les atteindre, et donc pour ça, avoir le contrôle de la situation, un contrôle suffisamment sur le monde pour pouvoir satisfaire nos objectifs, et donc ne pas être en permanence dans le sentiment qu'on poursuit les buts des autres, mais pas ses propres buts à soi. Pour montrer comment on peut opérationnaliser cette classification des besoins de Max Neef, par exemple, pour pondérer des indicateurs agrégés de mal-être. Pour le moment, moi, je suis en train de travailler sur un indicateur qui travaille sur l'idée que on commence, chacun ici en Belgique, la population commence l'année avec un potentiel de jours heureux, 365 ou 366, les années bissextiles, de jours heureux. Bon. Et en fait, au bout de l'année, ben, tous ces 365 jours n'auront pas été heureux. Bon. Et pourquoi ils n'auront pas été heureux ? Ben, soit parce qu'on sera mort, bon, et que quand on est mort, on ne peut pas être heureux, effectivement, parce qu'aucun de nos besoins n'est satisfait quand on meurt. On n'est pas toujours heureux, par exemple, quand on est hospitalisé, hein, parce qu'il y a un tas de besoins qui ne sont pas satisfaits quand on est hospitalisé. Hein. Bon, le besoin de participation, ben non, on est pris en main. L'identité, bon, vous savez ce que c'est que l'identité du malade dans un hôpital. On fait ce qu'on peut pour que ce soit le mieux possible, mais ce n'est quand même pas tout à fait ça. L'autonomie, n'en parlons pas, etc. On est aussi les jours passés en prison, ce n'est pas des jours heureux. Bon. Donc, je retire de toute cette masse de journées potentielles les journées qui ne sont pas des journées heureuses. Et donc, je vois ce qui reste comme journées heureuses. Et donc, je retire les journées de chômage, je retire les journées de pauvreté, hein, parce que la pauvreté ne permet pas de satisfaire un nombre de besoins. Et on peut pondérer, donner un poids à ces différentes situations de malheur en fonction du nombre de besoins que cette situation fait qu'on ne rencontre pas. Bon. Et donc, bien entendu, le pire, c'est d'être mort. Mais en fait, en étant en prison, on n'est pas beaucoup, beaucoup mieux. C'est presque comme si on était mort socialement, d'ailleurs, du reste. Hein. Bon. Alors, on se pose la question, mais alors, bon, mais alors pourquoi la croissance ? Ça n'a pas de sens, puisqu'on constate que... la croissance matérielle, ce n'est pas ça qui fait le bonheur, ce n'est pas ça qui contribue le plus à l'espérance de vie à partir de certains niveaux. Alors, qui explique qu'on soit malgré tout addict à la souffrance, à la croissance, qu'on soit drogué à la croissance économique. Alors, au niveau individuel, bon, ça peut s'expliquer par le couple équilibre entre contribution-rétribution et bien positionnel. C'est-à-dire, bon, un des facteurs qui est important pour expliquer le bien-être au travail, c'est qu'on a l'impression, et dans la famille aussi d'ailleurs, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un équilibre entre notre contribution à la marge de l'entreprise ou à la bonne marge de la famille et la rétribution, ce qu'on en reçoit. Et donc, on essaie d'obtenir, on a toujours l'impression qu'on contribue beaucoup et qu'on est trop peu rétribué. Et en fait, la rétribution ben, dans l'entreprise, c'est un bien positionnel de ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce que plus on est rétribué, plus ça veut dire que notre contribution est appréciée. Et donc, on recherche une rétribution la plus élevée possible, parce que c'est le signe que ben, on apprécie notre contribution, qu'on a trouvée importante pour l'entreprise. D'où les salaires monstrueux des CEO, etc., et qui, en fait, entraînent toute une cascade de revendications à une augmentation de la rétribution, puisqu'on dit, bon, ben, ma contribution à moi, cadre juste moyen par rapport à la sienne, elle n'est quand même pas 10 000 fois, enfin, 1 000 fois inférieure. Donc, pression pour la hausse des salaires. Et donc, le problème, c'est que c'est comme dans une salle de cinéma, où au départ, tout le monde, ou salle de théâtre, tout le monde est assis et voit plus ou moins bien. Et puis, si le premier rang se lève, ben, ceux qui sont derrière ne voient plus. Donc, le deuxième rang va se lever, mais du coup, le troisième rang ne voit plus. Donc, tout le monde se lève, et puis au bout du compte, ben, on se retrouve dans la même situation qu'avant, tout en ayant, en fait, dépensé de l'énergie pour rien, en définitive. Et le problème des biens positionnels, c'est ça. Bon, au départ, le cadre supérieur, il recevra, je ne sais pas, une petite BMW, je ne me connais pas beaucoup en bagnole, et donc, du coup, l'autre en dessous, il voudra une Laguna, et puis, bon, le cadre supérieur, il dit, ah, mais le chef d'entreprise, il a ça, donc moi, je veux une 4x4 aussi, et ainsi de suite. Et donc, le coût et la dimension des voitures qui sont en fait une forme de rétribution des cadres augmentent, mais avec cette situation, c'est que finalement tout le monde reste au même niveau, en définitive. C'est juste au moment de la transition qu'il y a un petit sentiment de bien-être, mais qui en fait disparaît dès que celui qui est en dessous vous rejoint et dès que celui qui est au-dessus s'éloigne. Bon. Donc, et ça, c'est un facteur qui est très très important. Ça vaut pour les maisons, ça vaut pour les vêtements dans les écoles, etc. Et donc, c'est un facteur psychologique individuel et sociologique individuel qui est très difficile à contrôler et qui joue pleinement dans notre société dite de consommation où en fait ce sont les signes de la consommation, les signes du revenu qui indiquent que notre contribution à la société est appréciée et qu'on la considère comme étant importante. Et puis il y a aussi en fait des phénomènes d'insécurité affective et émotionnelle qui se traduisent par la recherche de compensation matérielle. Et notamment, une des conséquences du divorce, c'est qu'on voit qu'on a mesuré que les enfants de parents divorcés avaient des valeurs matérielles beaucoup plus fortes et donc des besoins de réalisation matérielle, de revenus, etc., beaucoup plus élevés que les enfants de parents non divorcés, par exemple. Donc il y a les travaux de Tim Kasser. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « The High Price of Materialism », donc le prix élevé du matérialisme, où il a analysé en profondeur l'enfance des gens qui avaient des valeurs matérielles plus importantes et aussi leur score sur un certain nombre d'indicateurs de bonheur. En gros, ils ont un score inférieur en termes de bien-être et généralement, leur adhésion à des valeurs matérialistes s'explique en grande partie dans leur enfance. Donc ça, c'est les aspects micro qui font que on continue à chercher toujours plus. Puis il y a les aspects macro qui sont là, c'est que en fait notre système capitaliste c'est une machine infernale, puisque c'est une machine qui fonctionne au profit, donc on génère du profit, mais le profit qu'est-ce qu'on en fait? Ce profit est dans les sommes où il existe, il est indépensable, donc il est réinvesti. Ça veut dire quoi? Qu'il va régénérer d'autres profits, d'autres revenus, mais ça en fait ça ne se fait pas sans coût, ça se fait toujours à un coût environnemental, c'est que finalement c'est sur les ressources de la planète que ce réinvestissement permanent du profit qui génère cette croissance s'effectue. Il y a aussi un problème la plus conjoncturel pour nous, c'est le vieillissement de la population, qui fait qu'on vit de plus en plus longtemps, on a besoin, vous le savez mieux que moi, de soins de plus en plus tard, de plus en plus longtemps, et que ça, il faut le financer, il faut le prélever, ce financement, sur les ressources des actifs et de la croissance et du revenu généré. Et donc, c'est un incitant à augmenter le revenu, puisque les prélèvements, les transferts sociaux prélevés sur les actifs sont de plus en plus importants. Et donc, pour que les actifs gardent leur pouvoir d'achat, on est obligé, effectivement, d'augmenter leurs revenus, puisque on ne peut pas augmenter les prélèvements. Voilà, on va. Alors donc, il y a aussi ce qu'on appelle les valeurs sociétales. C'est un indicateur assez intéressant. Une mesure des aspirations des élèves des collèges. Les deux premières années de l'université ou la fin des années secondaires, d'études secondaires aux États-Unis, l'évolution donc de leurs aspirations dans la vie. On voit que la courbe bleue, c'est d'être bien financé, d'être riche, en gros. Hein? Donc c'est le pourcentage d'étudiants qui déclarent que c'est le plus important pour eux, c'est d'être riche. Et la courbe verte, c'est ceux qui disent c'est important, c'est de trouver un sens à ma vie et de développer une vie qui a du sens, etc. Et donc vous voyez que les courbes se croisent à partir aux environs des années 76-77, où les aspirations matérialistes de réussite financière, etc., dépassent les aspirations non matérialistes. Après ça, vous avez les années Reagan, ça prépare les années Reagan, les années d'hyper-libéralisme. Mais donc, c'est parce qu'il y avait un contexte sociétal et culturel qui encourageait ces valeurs. Et donc, on en termine alors avec le titre, « Consommer mieux, moins autrement ». Donc, l'objectif du développement durable, c'est de minimiser la part de capital naturel utilisée dans la fabrication du bien-être. Donc, c'est minimiser le ratio capital naturel sur bien-être. Et donc, ça, en fait, ça correspond à trois stratégies. Première stratégie, c'est de minimiser l'utilisation du capital naturel dans la consommation de marchandises, dans la consommation marchande. Ça, c'est la première stratégie, ce qu'on appelle la stratégie d'efficience, c'est-à-dire, en gros, de faire des marchandises plus efficientes écologiquement. Mais il y a une deuxième stratégie qui est de consommer moins de marchandises, d'utiliser moins de marchandises pour satisfaire ses besoins. Donc, c'est ce qu'on appelle la démarchandisation. Donc, c'est de satisfaire un certain nombre de besoins autrement que par les marchandises. Et autrement que par les marchandises, on verra ce que ça veut dire. Ça veut dire par du lien social, par du service public, etc. Pas nécessairement par quelque chose qu'on achète sur un marché. Et enfin, la troisième stratégie, et donc les trois sont liées, c'est aussi de diminuer la part de consommation, quelle qu'elle soit, de services matériaux et énergétiques dans notre bien-être, donc d'avoir ce qu'on appelle une politique de la suffisance. Une politique de suffisance, ben, c'est quoi ? Ben, c'est effectivement supprimer de sa consommation tout ce dont on se rend compte que ça ne contribue pas vraiment à notre bien-être. Donc c'est faire un travail sur soi, de, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Est-ce que ça, ça me nourrit vraiment ? Est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'il me faut ? Est-ce que ce n'est pas un substitut pour quelque chose qu'il me faut et que je n'ai pas, etc. Donc, c'est découpler le bien-être et le bonheur, donc, de la consommation autant que possible. Bien entendu, il y a des limites, hein, mais on est, pour la plupart d'entre nous, bien entendu pas pour la population qui est en dessous du seuil de pauvreté, mais pour les classes moyennes et supérieures, on est bien largement au-dessus de ce qui est nécessaire à notre bien-être. Et donc, c'est le discours simplifié volontaire, décroissance, consommation responsable, responsable vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi-même, parce qu'en plus, la surconsommation, elle est nocive quand elle se traduit par de l'obésité, des maladies, etc. Et puis, l'autre, c'est la démarchandisation. Voilà, c'est en fait sortir un peu de la société de marché, retrouver des relations de la sphère autonome, c'est-à-dire trouver dans la sphère autonome les moyens de satisfaire des besoins qu'on fait satisfaire par le marché, alors que le marché n'est pas le meilleur moyen de les satisfaire, et aussi rendre à la sphère publique un certain nombre de services qu'elle est mieux placée que la sphère du marché ou que la sphère autonome pour rendre, pour un tas de raisons dans lesquelles je n'ai pas le temps de rentrer ici, et qui consiste donc effectivement à optimiser. En fait, on a trois institutions qui allouent des biens rares, c'est l'État, c'est la sphère autonome, la société civile, la famille, et c'est le marché. Ben, c'est optimiser chacune des institutions, faire en sorte que chaque institution soit chargée de donner ce qu'elle donne le mieux, le marché, l'État et la sphère autonome. Voilà, je vous remercie.